Les échos de Vacarme.
La nouvelle génération saura-t-elle réenchanter le féminisme ?
Marc Hughes, Véronique Marty.
Oui, bonjour, j'ai 65 ans et j'avais envie de réagir à votre émission Vacarme sur le harcèlement de rue. Je trouve très bien que ce soit quelque chose qui soit porté sur le domaine public, voire même politique actuellement. Je tenais juste à préciser que dans les années 70, les féministes de l'époque, ça n'a pas été tellement mentionné là, que nous étions et que nous sommes toujours du reste, avions déjà mené plusieurs actions de ce type-là pour dénoncer le fait qu'on était harcelé dans la rue déjà à cette époque. Mais c'était moins organisé que maintenant. Le fait que ce soit partagé par une plus grande partie de la population, je trouve que c'est très positif.
Je suis contente d'entendre votre émission, ça me touche. Le harcèlement de rue, je connais mon premier souvenir, j'avais 12 ans, et maintenant j'en ai plus que 40, et ça m'arrive encore. C'est pénible, ça se passe en allant faire du jogging sur un quai de gare, ça réduit vraiment la liberté d'être dans l'espace public. On a envie de se cacher, de se couvrir pour éviter d'être regardé. Et c'est vraiment pénible. C'est bien d'en parler, c'est bien de sensibiliser les gens. Ça sera utile d'éduquer, parce que c'est comme normal en fait. Et ça, c'est pas normal.
Je suis une dame qui a aujourd'hui 72 ans. J'ai fait mon apprentissage sur Lausanne et j'ai des souvenirs très désagréables de harcèlement. Mais évidemment, on n'osait pas en parler. C'était comme si on était coupable. Donc, à mon avis, rien n'a changé. Mais je pense qu'il faudrait peut-être aussi arrêter de mettre dans les journaux comme des journaux qu'on trouve tous les jours avec des pages, femmes dénudées, etc., qui excitent ces messieurs. Et je pense qu'on fait de la publicité contre les femmes avec des émissions, des films, des choses comme ça, et je pense que c'est là qu'il y aurait un grand travail à faire.
Je me suis jetée sur la série Martin Sexe Faible dès que j'ai eu fini d'écouter votre émission de cet après-midi. Moi je trouve totalement génial, et ça correspond à une question que je me posais ces temps, qui était: est-ce que les hommes peuvent juste imaginer comment fait pour nous les femmes dans le monde actuel?
Moi, je suis féministe, on va dire comme ça, mais j'ai fait partie d'organisations où c'était vraiment tous les comités, toutes les commissions, c'était paritaire, hommes-femmes. Et c'est vrai qu'on a beau se dire féministe, on a beau être ouvert, quand il faut mettre la moitié d'hommes et la moitié de femmes, puis qu'il faut qu'un homme se retire, ou qu'il y ait une place qui reste vide parce qu'on doit mettre une femme, mais tout d'un coup, les hommes, on a nos vieux réflexes machistes qui reviennent. Donc, il faut une obligation. C'est comme qu'il faut, dans un règlement, pour qu'il y ait tant de romans, pour qu'il y ait tant de sinoirs, mais pour qu'il y ait aussi tant de femmes. Il faut que la moitié soit les femmes.
Oui, je suis infirmière sage-femme, maman à la retraite. Je trouve vraiment le respect des femmes, il faut déjà l'apprendre chez les enfants. Merci.
Je pense qu'aujourd'hui, je crois qu'en tant que femme, un combat contre un homme, c'est inutile. Un combat entraîne une guerre, et une guerre n'est pas désirée. Je crois que c'est nous deux, l'homme et la femme, qui devons se mettre ensemble pour repenser notre mode de vie. Et je crois que là, on aura peut-être une solution. Merci.
Bonjour à tous et merci pour vos messages. Alors, le féminisme, c'est quoi ? Si l'on s'en tient à la définition du petit Robert, il s'agit, je cite, de l'attitude des personnes qui souhaitent que les droits des femmes soient les mêmes que ceux des hommes. Qui remet cela en cause aujourd'hui ? Pourquoi ce mot fait-il débat ? Pourquoi est-il, comme le rappelle dans un livre tout juste paru l'une de nos invitées d'aujourd'hui, pourquoi est-il vu ou entendu comme un gros mot ? Depuis quelque temps, le féminisme semble reprendre du poil de la bête. Sur les réseaux sociaux, véritable caisse de résonance du monde, il redevient un sujet abordé, débattu, partagé. Une nouvelle génération n'a pas peur du gros mot. Des jeunes femmes, des jeunes hommes le clament haut et fort sur YouTube, Facebook et autres Twitter. je suis féministe. Alors, assiste-t-on à l'émergence d'un féminisme nouveau avec ses revendications propres, ses codes et ses combats? Pour en parler ce matin dans les Échos de Vacarme, j'ai le plaisir d'accueillir Colline de Senarclan, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en duplex de Genève. Les auditeurs du dimanche matin sur la première vous connaissent bien. Vous êtes régulièrement l'une des beaux parleurs autour de Michèle Zeldaly. Vous êtes une féministe, essayiste. Vous avez publié Salope, réflexion sur la stigmatisation aux éditions Alice Hélas en 2014. On va revenir sur ce mot salope d'ailleurs qui fait débat sans doute. Mais
avec plaisir, c'est un gros mot.
C'est un des gros mots du féminisme. Peut-être un mot sur les réactions d'auditeurs que vous venez d'entendre. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces messages laissés sur le répondeur de Vacarme tout au long de la semaine?
Il y a plusieurs choses. Une des premières choses, c'est qu'on entend des femmes d'un certain âge qui parlent, et notamment une qui nous rappelle que le féminisme n'est pas né hier et que les engagements féministes contre le harcèlement de rue notamment ne datent pas d'hier non plus. Et je pense que c'est assez intéressant de s'en rappeler parce qu'effectivement, comme vous le dites aujourd'hui, peut-être un engouement nouveau ou une vague de cool autour du féminisme, mais en fait, les revendications féministes qui sont les nôtres aujourd'hui sont des vieilles revendications et on est, à mon sens, plutôt dans la continuité par rapport à ça. Et puis j'aime beaucoup ce monsieur qui se remet en question en disant il faut obliger les hommes parce que les hommes sont machos. Puis il faut que, puis c'est quand c'est un homme qui le dit, on se dit c'est vrai quoi, il le sait et il le sent, donc faut obliger les mecs à laisser leur place. Et puis ça me touche beaucoup comme discours.
Une deuxième invitée en duplex de Paris, Clarence Edgar-Rosa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur de l'abécédaire joyeusement moderne du féminisme aux éditions Hugo Doc, collection Les Simones, paru en octobre 2016. Vous tenez également un blog, donc vous faites partie peut-être de cette nouvelle génération de féministes qui investissent la toile, l'internet, les réseaux sociaux pour parler de ce gros mot qu'est le féminisme. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette nouvelle génération?
Moi, je rejoins vraiment ce qui a été dit par Colline à l'instant, à savoir qu'au final, les revendications des féministes d'aujourd'hui sont au final très très proches de celles d'il y a pas si longtemps que ça. C'est peut-être les modes d'action qui sont un peu différents, et en effet, l'impact d'Internet qui permet une immédiateté qui n'existait pas auparavant et dont on sait se saisir. Mais par rapport à ce qui a été entendu là dans les réactions des auditeurs, moi j'ai été aussi très interpellée par le fait qu'on avait en effet beaucoup de femmes d'une génération antérieure, je pense des femmes de la génération de nos mères, voire de nos grands-mères, qui en effet rappellent que le harcèlement de rue par exemple, c'est pas nouveau, et c'est vrai que c'est le mot au final qui est nouveau, le fait de mettre un mot dessus, ça c'est nouveau, et c'est là qu'on arrive à en effet avoir des actions d'une plus grande ampleur comme a pu le dire cette dame. Ouais.
Un des gros mots du féminisme, on l'a dit tout à l'heure avec Colline de Senarclan, c'est salope. La marche des salopes, c'est aussi quelque chose qui existe aussi en Suisse. Colline de Senarclan, vous avez été une des cofondatrices de cette marche qui a été donc cofondée en 2012. Mais c'est un mouvement international, c'est un mot qui est revendiqué aujourd'hui de plus en plus fort par les féministes. C'est pas un mot nouveau, c'est un mot qu'on a entendu au début des années 70 dans le fameux manifeste des 343. Vous le rappelez dans votre livre, Clarence Edgar-Rosa. On a pourtant l'impression que ce mot n'a pas perdu de son pouvoir, presque un peu agressif, qu'il n'a pas réussi à être vidé de sa connotation négative, Colline de Senarclan.
C'est ce qu'on essaye de faire avec la marche des salopes ou en déconstruisant ce concept. En réalité, le fait d'utiliser le mot salope, c'est moins une revendication qu'une critique. Et je pense que ça, c'est très important de le rappeler. Quand on utilise le mot salope, en fait, finalement, on utilise un mot complètement vide, puisque si on part du principe qu'il n'y a aucun comportement qui mérite à une femme d'être stigmatisée, on peut considérer que la salope n'existe pas. C'est ce que je dis dans mon livre. Et du coup, le fait d'utiliser ce mot pour le vider de son sens, pour dire « mais regardez comme il est ridicule, en fait », il s'agit de dénoncer une pratique, comme vous l'avez dit, je pense qu'on peut le dire, le mot salope est un mot violent à partir du moment où il est utilisé contre quelqu'un, comme le mot pédé, il y a tout ce panel de mots sexistes qui sont utilisés pour blesser les gens dans leur intimité. Et du coup, c'est important de l'utiliser de manière critique et de dénoncer sa pratique.
Mais est-ce qu'on arrive vraiment à le vider de son sens, Clarence Edgar-Rosa?
Ben, c'est une grande question, mais d'ailleurs c'est important de rappeler aussi que pour le dans le cadre du manifeste des 343 pardon, c'est pas elles hein, qui se sont qualifiées de salopes. Hein. Elles c'était elles ont juste signé un manifeste des 343.
C'était Charlie Hebdo, sauf erreur.
C'est Charlie Hebdo en effet qui les a qualifiées de salopes.
Et c'est resté.
C'est resté et puis c'est vrai que par la suite certaines se le sont réappropriées. C'est une vraie question la réappropriation de ce mot parce que en effet il a une charge violente très forte. Mais voilà comme le disait Colline, je la rejoins tout à fait. Le fait de se réapproprier des insultes sexistes notamment, c'est une manière de décider soi-même. Pour soi-même, ce qui peut être insultant ou pas. Et si on considère qu'une femme qui a une sexualité, qui ne correspond pas aux standards des autres, ou en tout cas une sexualité qui peut ressembler pour certains à celle des hommes, si on considère que ça, ce n'est pas un problème, et en l'occurrence les féministes considèrent que ce n'en est pas un, alors dans ce cas, pourquoi voir un problème dans ce mot ? Donc oui, en gros, c'est retourner une arme contre celle qui la tend vers nous.
Je vous propose à l'une et à l'autre de rentrer dans le vif du sujet. On y est déjà un peu, mais là, je vous propose qu'on le fasse grâce au reportage de Francine Delcozo. C'est un extrait réalisé un vendredi soir dans une ville de Suisse romande. Un groupe de 4 jeunes femmes sortent ce soir-là. Elles ont entre 20 et 28 ans et elles ont un micro assez discret, on va dire, accroché au col de l'une de ces jeunes filles. Et vous allez l'entendre, il ne faudra pas très longtemps avant qu'elle se fasse aborder par des hommes. On parle évidemment de harcèlement de rue dans les Échos de Vacarme ce matin.
Moi, une fois, il y a un truc qui m'est arrivé, mais j'en ai vraiment parlé à personne parce que j'avais vraiment comme honte. C'était assez bizarre, j'étais dans le tram, j'avais peut-être, je sais pas, 17 ou 18 ans. C'était un vieux monsieur, puis il faisait que tousser, il était en face de moi. Puis tout d'un coup, il y a le tram qui bouge, puis avec ses mains, il fait vraiment comme ça, enfin, et puis paf, sur mes seins. Puis je me suis dit, c'est un petit vieux, il a pas fait exprès, puis après j'étais là. Mais non, c'est sûr qu'il a fait exprès, puis je me sentais, justement, en fait, au lieu que ce soit lui qui ait honte, j'avais honte que ça me soit arrivé, et j'en ai parlé à personne.
Mais c'est ça aussi, maintenant, j'ai l'impression que, du coup, c'est nous qui avons honte, des fois, pour des choses que les hommes font. Et du coup, au lieu de te dire, ça, ah ben...
Les filles, il y a mon ami, 38 ans, puceau. Il fait bien.
Mmh. Bonne soirée.
Sérieux. Il peut vous prendre les 4.
Ah ouais.
Ouais.
Belle performance.
Non, je paye.
Mais ça va ou bien enfin...
Non, plus, je voudrais qu'ils aient vers vous.
Non, mais on... bah, bravo, vous pensez qu'on est là pour ça, juste pour ça?
Ah, c'est bon, vous êtes des gamins, je n'avais pas vu. J'ai pas vu.
Ouais, 19 ans, 15 ans.
Ah, mais ça pourrait être nos filles.
Non, je suis désolé. Ouais.
Ah, c'est vrai que ça change tout, là.
Je suis désolé, j'avais pas vu que vous êtes aussi.
Et alors, si on était plus vieilles, ça change rien. C'est juste du respect, hein.
Non, je manque jamais de respect.
On a pas... Alors ça, c'est quoi?
C'est quoi?
Bah, vous avez demandé si on pouvait coucher avec votre ami.
Non, c'est pas... un échange de bons procédés.
Ah, d'accord.
Non, pardon. Non, ça s'appelle des putes. Ah. On va jamais aux putes. Mais par contre, boire un verre, ah, échanger...
Non, mais ça pourrait être nos filles, c'est vrai.
Bah oui, j'ai ma fille qui a 17 ans. Je suis désolé, excusez-moi, je n'avais pas vu vous. Mais par contre, je reviens dans... quand j'aurai 20 ans de moins. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver.
Désolé.
Ça m'énerve tellement. Ils se rendent pas compte que c'est du harcèlement, que c'est du non-respect. Après, ils disent « Ah, j'ai pas remarqué que vous étiez plus jeune, mais ça change quoi ?»
Que t'es 10 ans, que t'es 50 ans ou 25 ans,
ça change rien. Je ne demande jamais de respect à une femme, mais mon ami peut vous prendre des 4.
Mais c'est ça, c'est ce qu'on se rend pas compte aussi, c'est que ça touche pas que nous. Enfin, moi, j'ai une autre amie qui a la cinquantaine. Il y a deux hommes aussi qui se sont arrêtés vers elle pour lui demander ses tarifs.
Au micro de Francine Delcozo, pas tout à fait au micro de Francine Delcozo puisqu'elle n'était pas là, mais ces 4 jeunes femmes qui se baladent dans une rue de Suisse romande un vendredi soir, qui se font accoster, la scène est réelle, elle n'est pas du tout jouée, ce ne sont pas des acteurs, c'est un vrai événement qui a vraiment eu lieu ce soir-là. Elles se font accoster, est-ce que vous diriez qu'elles se font agresser, Colline de Sonarclan?
Bah, il s'agit, oui, puisque on remet en question la légitimité de leur présence sur l'espace public. En fait, on leur dit, vous êtes sur l'espace public, donc vous êtes là pour pour baiser en gros, enfin pour satisfaire aux besoins de.
Mais les hommes s'excusent.
Ouais, alors ça c'est assez exclusif. Hein. Moi, c'est assez rare qu'on l'entende, mais ils s'excusent pourquoi ? En disant c'est bon, vous rentrez pas dans la catégorie. Donc en fait, vous êtes protégé par votre âge, ça fait que c'est ok. Mais enfin, dans le fond, ça renforce cette idée que il y a des zones de légitimité, puis il y a des zones de non légitimité. Vous faites rarement emmerder quand vous êtes avec votre enfant, par exemple. C'est extrêmement rare, parce que quand vous êtes avec un enfant, c'est bon, vous avez le droit d'être dans l'espace public. Ou si vous avez des cornets à commission, c'est bon, vous allez faire vos courses, vous respectez votre rôle de femme.
Vous n'êtes pas dans la cible.
Oui, puis vous êtes votre présence sur l'espace public est légitimée par la présence d'un enfant, d'un sac de commission, etc., etc. Mmh. Par contre, soyez seul et déjà marchez déjà bon, mais soyez seul et arrêtez-vous dans l'espace public. Profitez de l'espace public, soyez statique dans l'espace public et là c'est terminé.
Ça signifie c'est une invitation.
Parce qu'il y a un symbole derrière de justement de travailleuse du sexe. Enfin, il y a tout un imaginaire derrière qui conditionne la présence des femmes sur l'espace public en fonction de l'attente que les hommes ont. Non, en fait.
Clarence Edgar-Rosa, cet extrait de reportage, qu'est-ce qu'il vous inspire?
C'est consternant, hein, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi, ce qui me choque et ce qui attire vraiment mon attention, c'est ce côté « Ah, on est désolé, vous pourriez être ma fille ». C'est assez drôle, parce que sans s'en rendre compte, il fait un parallèle avec sa propre fille, et donc du coup, ça rend l'agression et l'intrusion plus problématique. Donc ça veut dire que quelque part, il a pu se dire que si ça arrivait à sa fille, ça pourrait poser problème et ça pourrait être un peu embêtant. Mais par contre, si ça arrivait à une femme de son âge, bon là, il s'est pas vraiment posé la question, quoi. Puis il y a aussi ce moment où il dit « Ah non, ça s'appelle des putes », donc il fait un parallèle assez sympa. C'est-à-dire qu'il propose à la jeune femme, en s'immisçant dans son espace, il lui propose une relation tarifée alors qu'elle ne lui a rien demandé. Et ensuite, il dit « Ah oui, non, ça s'appelle des putes, donc c'est pas du tout, nous on va pas aux putes, hein, attention, on est des personnes bien. Donc il y a vraiment un double standard à tous les niveaux sur cette interaction qui est complètement, complètement lunaire, mais tristement banale, effectivement.
Alors c'est une forme d'agression, vous êtes d'accord l'une et l'autre là-dessus. Comment différencier une agression telle que celle-là à de la drague d'un vendredi soir dans les rues où les gens s'accostent, parfois pas toujours avec les formes? Quelle différence vous faites? Parce que c'est ce qu'on entend beaucoup aussi.
Oui,
mais
oui,
au fond, c'est pas si grave, c'est de la séduction, ou mettre la séduction si on ne peut plus s'aborder les uns les autres.
Mais en fait, ça n'a rien à voir. Les deux n'ont vraiment rien à voir. Dans la drague, il y a une recherche de réciprocité. On s'adresse à la personne en espérant avoir une interaction, que la personne soit séduite. Et donc, pour être séduite, il ne faut pas qu'elle se sente agressée, sinon on n'est plus dans la séduction. Donc voilà, à partir du moment où il n'y a pas de recherche de réciprocité et qu'il n'y a pas de respect, ce n'est plus du tout de la drague et ce n'est plus du tout de la séduction.
Mmh. Je pense qu'on est assez d'accord pour dire que ce bonhomme, il cherchait pas réellement à coucher avec ses filles.
Bien entendu.
À aucun moment, il s'est dit, en leur faisant cette proposition dans cet espace-là, je vais pouvoir obtenir une relation sexuelle. Enfin, je veux dire, c'est tellement absurde.
Ça ne marche jamais.
C'est clair que le but est uniquement une intimidation. Donc, on est dans la violence, en fait.
Le harcèlement de rue, est-ce que vous avez le sentiment, l'une et l'autre, qu'il est en augmentation? Parce que l'impression qu'on a, en étant un peu sur les réseaux sociaux, c'est que le combat contre le harcèlement de rue est en augmentation. Est-ce que ça veut dire que le phénomène augmente?
Non, moi je pense pas. Il suffit d'entendre ces femmes qui parlaient en début d'émission pour se rendre compte que pas du tout. Je pense que ça a toujours existé et que probablement c'était pire avant parce que la légitimité d'agir comme ça était beaucoup plus grande. Puis je pense que justement aujourd'hui, cette légitimité elle est en train de baisser et puis notre intolérance vis-à-vis du harcèlement de rue elle est grandissante. Ce qui fait que de plus en plus ça pique et ça gratte et donc on le visibilise. On a mis un mot dessus. Le mot nommé permet de créer le phénomène. Donc ça émerge comme problématique réellement, elle devient aussi politique. Donc on est en train de faire émerger un phénomène social qui avant était complètement, comme l'a dit cette dame tout à l'heure, invisibilisé et on n'en parlait pas, etc.
Et on permet, en parlant, on commence à le comprendre mieux, à mieux le décrypter, parce que quelque chose qui a peut-être toujours été un peu dans l'ordre des choses devient problématique aujourd'hui. On le voit, par exemple, on parlait de réseaux sociaux, on parlait d'Internet, dans une série que vous connaissez sans doute l'une et l'autre, Martin, sexe faible. C'est une série française qui inverse les rôles. Martin devient le héros d'un monde où les femmes ont le pouvoir et le harcèlement de rue a été l'objet d'un des épisodes. Je vous propose que on écoute un extrait de cette série, puis qu'on entende aussi les créateurs de Martin Sexe Faible. Il y a Paul Lapierre, Juliette Trezanini et Antoine Pivnik.
Je m'appelle Martin, j'ai 30 ans, et dans mon monde, ce sont les femmes qui ont le pouvoir.
Tu vois, tu ne prends pas la tête.
Où sur va, ouais, bon petit clou, toi.
Mais non, vas-y, trop vite.
Elle est pucelle, fermez bien vos gueules.
Oh, meuf, t'as cru quoi, là? T'as qu'à dire à ton mec d'arrêter d'allumer tout le monde.
C'est mon frère, connasse, je te défonce, moi. Bah, tu sais quoi, t'as qu'à dire à ton frère, on n'est pas intéressé, t'as eu.
Tu sais quoi, ton rêve, il est périmé, on dirait un daron. T'as cru, on voulait se taper un daron. Eh, franchement, tu sais quoi, respecte-toi, va t'habiller.
Toi, tu parles à mon frère. Toi, tu parles à mon frère.
Allez, on s'en fout.
Mais d'où tu me manques de respect, là?
On s'en fout.
Tu parles à mon frère. Tu parles à mon frère.
Je te défonce.
Vas-y, ta mère la gouine.
Allez, arrête, on s'en fiche.
Je supporte pas les meufs qui parlent comme ça dans la rue.
Ça va, tu l'as dit, c'est des burnes. C'est bon, on a compris, ça y est.
Mais ferme ta chemise, toi aussi.
T'es sérieuse, là?
Quoi? Bah oui, je suis sérieuse. Enfin, c'est normal que tu te fasses emmerder avec ton jean moulant, là, tu cherches.
Il y a l'aspect message, et c'est ça aussi qui nous intéresse, et où les gens adhèrent. Et là, on n'a que des commentaires positifs. On n'a pas eu besoin d'enlever des commentaires qui pouvaient être potentiellement gênants. Donc, c'est chouette.
Tout en ayant en tête, quand même, cet effet qu'on peut pas nier, qui est que, malgré tout, cette série, elle aura tendance à être regardée quand même par 80% de gens qui seront un peu d'accord avec le propos. C'est-à-dire que à partir du moment où on est un peu attiré par ce sujet, on va aller la regarder. Et alors, on sera conforté dans notre dans notre quête de faire passer ce message. Malgré tout, je pense pas que des gens vont radicalement changer d'avis en voyant cette série. Je pense que quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec ce qu'on dit, soit n'ira pas la regarder, tiendra pas plus d'une minute, soit nous laissera un commentaire en disant « connard de féministe » et c'est fini. Et lui, on le convaincra pas.
T'es sérieuse, là?
Mais elle pense qu'à ça, c'est pas la peine de provoquer.
C'est moi qui provoque? C'est moi qui suis provocant, c'est de ma faute? Alors vraiment, mesdames, je suis désolé si je vous ai provoqué, là, avec ma chemise. Je sais pas ce qui m'a pris. En plus, on voit mes coudes, c'est dégueulasse. Non, vraiment, essayez de ne pas me violer. Ça serait vraiment très sympa, merci. Ça va? T'es rassurée? Ça y est?
Je dis ça pour te protéger, il y a des tarés partout.
Martin, sexe faible à voir sur Internet, cette petite mini-série web française. Colline de Saint-Arclan, Clarence Edgar-Rosa. Bon, j'imagine que vous connaissez Martin, sexe faible. Ce ne sont pas les seuls d'ailleurs qui ont fait ces inversions de rôle. Mais quelle est la portée pédagogique, entre guillemets, de ce genre de film, Clarence Edgar-Rosa?
Oui, c'est vraiment un programme excellent qui est vraiment dans la finesse, je trouve. Bah, la portée
pédagogique.
Bon,
c'est assez violent aussi, au niveau de
oui, mais
du vocabulaire.
C'est aussi violent que peut l'être la réalité. Donc, en ce sens, je trouve que c'est plutôt très fin au final. Mais oui, justement, moi, je serais plus optimiste que ce qu'on a entendu, à savoir que je pense vraiment que l'impact peut être au final important sur des gens qui partagent pas le point de vue de départ et qui ne comprennent pas forcément ce qu'est le harcèlement de rue. Ou alors qui ne sont pas féministes, parce que au final ça permet vraiment de comprendre ce qui se passe, et ça peut sembler exagéré. J'ai entendu plein de personnes, moi, après les premiers épisodes de la série, me dire ouais, non mais attends, ça se passe pas vraiment comme ça. Je veux dire, là ils ont mis le paquet, tout est là. Ouais, c'est vrai, tout est là, et en même temps, comme je le disais à l'instant, ça correspond véritablement à la réalité, quoi. En général, on n'a pas à la fois dans les mêmes 5 minutes et les deux harceleurs et le grand frère paternaliste, mais bon, ces deux choses par contre arrivent séparément souvent. Donc non, je pense que la portée pédagogique, elle est très forte, hein. C'est sûr que pour moi c'est quelque chose qui évidemment va être regardé en majorité par des gens déjà intéressés par ces questions, mais ça va être un excellent outil pour eux, pour les transmettre à ceux autour d'eux qui ne comprennent pas ces problématiques. Donc, pour moi, c'est un truc qui va se passer de main en main, et voilà, un très bon outil pédagogique, vraiment.
Paul Lapierre le disait, hein, un des créateurs, quand même, et vous l'avez rappelé, Clarence Edgar-Rosa, 80% des gens vont être d'accord. Ça va intéresser 80% des gens qui sont déjà d'accord avec notre propos. On sent quand même, lui, il le voit comme une limite. Est-ce que vous, Colline de Saint-Arclan, vous voyez cette limite?
Non, mais moi, ce que je pense qui est intéressant là-dedans, c'est que ça s'adresse aux 2 millions. Et donc, par conséquent, ça biaise un peu cet aspect où tout le monde est d'accord, pour ceux qui le regardent sont d'accord, en fait. Et c'est triste, en fait. Moi, je trouve ça me déprime un petit peu, ce genre de programme, parce qu'effectivement, c'est efficace, c'est bon, c'est très court, c'est très ludique, etc. Donc, vive Martin Sexe Faible. Puis en même temps, ça m'attriste de me dire qu'il faut absolument toujours
inverser les
mettre, enfin dire au dominant comment ce serait si c'était lui, quoi, et puis qu'il est pas capable de se rendre compte avec empathie qu'il y en a d'autres qui vivent des trucs que lui il vit pas. Et puis ça, je pense que c'est un des énormes problèmes que les féministes ont aujourd'hui, c'est d'essayer de faire entendre, pas comprendre, parce que on peut pas comprendre une situation qu'on n'a pas vécue et qu'on ne vit pas, mais de faire entendre et de faire écouter nos discours qui disent c'est ça nos réalités, c'est ça nos réalités matérielles, émotionnelles, physiques, etc., de violence, de discrimination, et que les hommes arrêtent de dire ouais mais enfin on a eu Yves Nideguerre il y a pas longtemps quand on a parlé de harcèlement aux chambres fédérales qui disaient bah c'est pas un sujet. Bah oui, non, pour toi c'est pas un sujet mon grand, parce que t'es pas une femme, donc effectivement tu vis pas de sexisme. Et c'est vrai que ça me déprime un petit peu l'idée qu'il faille absolument passer par ça pour passer le message.
Alors Yves Nideguerre n'est pas là pour se défendre, mais on entend votre propos, Colline de Senarclan.
Je l'assume par contre ceci étant dit, effectivement c'est très efficace, et j'avoue que j'aime beaucoup cette petite mini-série.
C'est efficace. On la retrouve dans d'autres séries ou commentaires ou partages sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous diriez que ces nouveaux outils, finalement, qui collent à une nouvelle génération aussi, même s'ils sont utilisés par des gens plus âgés, est-ce qu'ils font émerger de nouveaux discours, Clarence
Alors, moi, je voulais juste intervenir. Hein,
oui,
parce que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le féminisme est à la page, etc., etc., mais est à la page aussi un discours extrêmement radical, anti-féministe. Donc, les deux coexistent. Effectivement, il y a une émergence de ce discours-là.
Se nourrissent l'un de l'autre, peut-être?
Alors, certainement. Je veux dire, le fait de faire émerger des problématiques, le fait de faire émerger des légitimités nouvelles, remet en question tout un tas de trucs. Mais quand on crée, je sais pas, une table ronde, par exemple, sur le sexisme, le lendemain, il y a un article sur le blog d'un masculiniste qui reprend les propos en disant pas du tout, ce sont les hommes qui sont discriminés, etc., etc. Donc, c'est effectivement vrai qu'en ce moment, le mot féministe est de moins en moins rejeté, mais il est aussi vrai que des discours extrêmement radicaux émergent de la part d'hommes qui nient les violences, voire les encouragent, etc.
Qui se défendent peut-être. Clarence Edgar-Rosa, sur cette question.
Oui, moi je suis pas tout à fait certaine que le mot féminisme soit de moins en moins chargé, voilà, que l'étiquette soit de moins en moins difficile à porter pour la plupart des gens. De toute façon, j'ai appelé mon livre Les Gros Mots, donc très clairement, je partage pas tellement ce point de vue. Je pense que en fait, le fait que le mot soit à la fois fasse partie d'une sorte d'effet de mode, et le fait qu'il continue à porter une charge lourde et qu'il soit animé de tout un tas de mythe sur ce qui est censé être une féministe, en fait ces deux phénomènes-là sont un peu s'alimentent l'un l'autre, c'est-à-dire qu'au final, le fait que le terme soit à la mode alimente l'idée que au final on sait plus vraiment ce que c'est le féminisme, puisque c'est une étiquette qu'au final on colle un petit peu sur tout et n'importe quoi, et puis toute cette mythologie là dont je parlais, donc les féministes sont d'affreuses bonnes femmes qui détestent les hommes et veulent les agresser,
leur font la guerre,
bien sûr. On l'a entendu tout à l'heure, d'ailleurs, dans les réactions des auditeurs. Et à un moment donné, une femme qui a dit que c'était un combat contre les hommes. Ce qui est évidemment faux, hein, c'est bon de le rappeler. Donc au final, tout ça alimente une confusion généralisée. Et c'est vrai que les discours antiféministes sont très forts en ce moment, tout simplement parce qu'ils utilisent les mêmes outils que le féminisme, à savoir les outils offerts par Internet, l'instantanéité, et puis les idées antiféministes sont aussi potentiellement virales que Martin Sexefeb, par exemple.
Et on est là ce matin pour décrypter encore ce mot féministe et ce qu'il veut dire aujourd'hui en 2016, quasi 2017. Vous écoutez Les Échos de Vacarme, on se retrouve juste après Chloé Lacan.
À la pêche, au bonheur, prends ta pelle et ton seau. Ne crains pas, petite fleur, de te prendre un râteau. À la pêche, au bonheur, suis le cours du ruisseau. De tes mains, petite sœur, cueille les fruits les plus hauts.
C'est une des raisons qui rend sur ce sujet les femmes si secrètes. La grossesse est surtout un drame qui se joue chez la femme entre soi et soi. Elle la ressent à la fois comme un enrichissement et comme une mutilation. Le fœtus est une partie de son corps et c'est un parasite. Elle le possède et elle est possédée par lui. Il résume tout l'avenir et en le portant, elle se sent vaste comme le monde. Mais cette richesse même l'annihile. Elle a l'impression de ne plus être rien.
Ma petite, ma sœur, ma belle enfant gâtée, t'es là, tout emmêlée aux jupons de ta mère. À 20 ans, l'âge tendre, tes ailes sont collées
Ma petite, ma frangine, ma toute fracassée, tu voudrais prendre l'air, mais tu restes prostrée. Quel est le con qu'a dit que 20 ans c'est le pied
à la pêche, au bonheur prend, t'appeler ton seau. Ne crains pas, petite fleur, de te prendre à tout. À la pêche, au bonheur suit le cours du ruisseau. De tes mains, petite sœur, cueille les fruits les plus hauts.
Ma petite, ma frangine, ma princesse fêlée, t'es là comme une poupée qui dépérit dans ses dentelles, la trouille en bandoulière, tout au bord de sauter. Au chemin qui t'attire, tu hésites et tu trembles, au nid qui te retient, te monte la nausée, le temps est à se pendre et t'en crèves d'attendre.
Parce que les femmes qui se battent, et il y a des exemples, je pense, je ne vais pas citer de nom pour ne pas oublier quelqu'un, mais notamment dans Bon Parti, il y a toute une série de femmes qui se sont battues et qui se battent aujourd'hui pour les droits des femmes. Bien souvent, ensuite, elles sont limitées à ce rôle. Pas parce qu'elles sont limitées à ce rôle elles-mêmes, pas parce qu'elles ne s'engagent pas sur d'autres dossiers, mais parce qu'elles sont enfermées dans ce rôle par le regard des hommes parlementaires qui ne les voient que comme des féministes. C'est certainement des railleries aussi à subir. C'est certainement un enfermement dans ce rôle aussi certainement dans les médias. Donc, il y a tout ce risque-là qui est à prendre, qui est pris par de nombreuses femmes avec beaucoup de courage.
Est-ce que vous êtes menacée aussi de ça comme homme féministe ?
Non. Non. Et ça prouve bien l'inégalité. Alors oui, des railleries peut-être. Des railleries de temps en temps. Mais pas du tout le risque d'être enfermé dans ce rôle-là. Pas du tout le risque de se voir comme un danger par certains hommes. Pas du tout. Et ça montre bien à quel point c'est encore aujourd'hui plus difficile pour les femmes.
C'était Mathias Reynard, conseiller national socialiste valaisan, au micro de Francine Delcozo. Un homme, un politique très engagé sur les questions féministes, mais on l'a entendu, il nous l'a dit, quand une femme est féministe, elle est enfermée dans ce rôle, ce n'est pas le cas pour un homme. Qu'est-ce que vous en pensez, Colline de Senarclan, Clarence Edgar-Rosa? Vous êtes des femmes, vous êtes féministes l'une et l'autre. C'est vrai qu'on vous invite très souvent sur ces questions de féminisme. Est-ce qu'on vous invite sur d'autres questions? Je vous la pose, la question, Colline de Senarclan.
Oui, ça arrive quand même. Mais c'est aussi parce que je pense que finalement, le féminisme, c'est une grille de lecture qui permet de lire plein de trucs, en fait. Et je pense qu'on en prend aussi conscience, puis que ça permet d'avoir un regard sur d'autres problématiques sociales sur lesquelles on est amené aussi à réagir. Et puis aussi parce que je fais de la chronique, donc en l'occurrence, quand il y a des sujets, ben voilà. Mais c'est vrai que la grille de lecture féministe, elle revient beaucoup. Et puis, ça veut pas forcément dire qu'on parle d'hommes et de femmes. On peut l'utiliser pour parler aussi de plein d'autres choses.
Mais des hommes peuvent avoir cette grille de lecture également. Et on va pas le signaler chaque fois.
Absolument. Oui, mais c'est peut-être que c'est un engagement. Moi, je me suis aussi beaucoup présentée comme ça. Je veux dire, pour moi, c'est clair que ça fait partie de mon identité. Aujourd'hui, je considère que c'est plus un terreau qui alimente à peu près toutes mes réflexions, mais que je suis pas que ça. Et personnellement, je ne me sens pas pour l'instant enfermée dans ce rôle-là.
Clarence Edgar-Rosa, est-ce que ça enferme d'être présentée comme femme féministe, de se revendiquer féministe? Ce gros mot.
Moi, je suis un peu comme Colline, je me sens pas tellement enfermée là-dedans, puisque en effet, les sujets sur lesquels je travaille, qui par ailleurs, c'est vrai, c'est bien de le rappeler, sont très larges et concernent en fait à peu près toutes les sphères de nos vies, donc c'est pas vraiment enfermant au final.
Oui, mais vous signalez vous-même dans vos papiers, dans vos présentations, que vous êtes féministe. C'est rare qu'un homme le fasse.
Oui, oui, tout à fait. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant ce qu'il disait, puisqu'en effet, un homme qui défend une des positions féministes ou qui s'est dit féministe ne va pas du tout être vu de la même manière et en effet va facilement être beaucoup plus écouté. On pourra pas lui renvoyer dans les dents tous les clichés sur les féministes. On ne le dira jamais qu'il est hystérique, qu'il s'énerve, voilà, qu'il prend tout mal. Donc c'est vrai que c'est terrible de le noter, mais c'est une réalité. C'est mieux vu, c'est plus simple. Et puis, je voulais aussi rebondir sur un point, c'est que, j'en parle dans mon livre d'ailleurs, il y a une espèce de terme qui fait partie du vocable féministe très récent, qui est la loi de la licorne, en fait, qui énonce en gros que les femmes qui travaillent dans des milieux dits masculins, qui vont donc être apparentées à des licornes puisqu'elles elles sont rares, peuvent être enfermées justement dans le fait d'avoir la parole exclusivement pour parler de ce que c'est d'être une femme dans un milieu masculin. Et en fait, on se rend compte que ça s'applique sur plein d'autres terrains et qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'être une licorne pour être enfermée dans ces sujets. Donc oui, je trouve que c'est tout à fait vrai, même si je m'y sens pas enfermée à titre personnel.
On est parfois plus enfermée dans le rôle de femme tout court que dans le rôle de féministe. Et je pense que ce qu'on a écouté tout à l'heure sur le harcèlement de rue, finalement, c'est ça. C'est des femmes qui sont dans l'espace public et on leur rappelle leur statut de femme qu'elles sont principalement.
Parce que je rappelle également que féministe, selon la définition du petit Robert, encore vérifiée hier, que le féminisme, c'est l'attitude des personnes qui souhaitent que les droits des femmes soient les mêmes que ceux des hommes. Alors, il y a peut-être un problème avec le mot féministe, parce qu'il vient de la racine, du même racine que le mot femme, et peut-être qu'il faudrait inventer un mot qui n'ait pas cette racine-là, parce que les hommes ont sans doute des revendications aussi. Vous avez parlé de masculiniste tout à l'heure, Colline de Senarclan. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas un mot plus neutre pour parler de cette revendication de l'égalité des droits?
Mais non, parce qu'on veut justement pas lisser. Je veux dire, un des enjeux du féminisme, c'est de visibiliser des violences qui sont spécifiques vécues par les femmes, ou, et d'ailleurs, c'est très important de le rappeler, par les personnes LGBT, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui vivent du sexisme, en l'occurrence, mais de rappeler que c'est justement la propriété sexiste de ces discriminations qui est importante. Donc, utiliser un mot plus lisse, pour moi, ça ne me satisferait pas. Et puis, je pense qu'il y a quand même, derrière le féminisme, et peut-être que Robert ne le dit pas, une revendication qui est politique, qui est aussi dans un mode d'action, un mode de lutte, et donc c'est aussi important de montrer que et d'avoir un mot qui est fort et qui peut-être dérange, mais qui rappelle que c'est un combat et un programme politique.
Des hommes ont aussi un combat propre à leur sexe, et je pense dans certains droits concernant les enfants au moment des divorces, et aussi des revendications qu'on entend parfois. Est-ce qu'il faut les taxer de féministes? Non, on dira pas ce mot-là, on dira peut-être masculiniste, il manque quand même du vocabulaire. Clarence Edgar-Rosa.
Masculiniste, pour le coup, ça concerne autre chose. Hein. C'est pas juste un homme qui revendique le droit d'avoir la garde de ses enfants. Hein. Le masculinisme, c'est vraiment un mouvement anti-féministe, pour le coup. C'est un mouvement qui vise à expliquer, en gros, que les hommes sont les victimes de droits des femmes qui seraient allés trop loin, et que ce seraient eux les véritables boucs émissaires, et que donc, par conséquent, il faudrait réhabiliter leur place dans la société, car ils seraient voilà, des victimes. Donc c'est tout autre chose hein, qu'un père qui dans son coin réclame voilà d'avoir accès à ses enfants dans le cadre d'un divorce. Hein. Mais je suis tout à fait d'accord avec Colline, bien sûr, sur le fait qu'il faut absolument pas se passer de ce mot féminisme. Hein. Régulièrement, il est question de le remplacer par humanisme, égalitarisme ou d'autres. Mais en fait, ce mot, déjà, si on le met de côté, on élimine tout un pan de tout un héritage intellectuel, culturel et militant. Et puis aussi les victoires dont on profite aujourd'hui. Donc ça me semble impensable. Et puis aussi ce mot féminisme, vu qu'en effet il vient du mot femme, il est aussi là pour rappeler comment s'organisent les inégalités, dans quel sens elles s'exercent de façon générale. Et puis évidemment, il est là aussi pour rappeler qu'il y a des violences faites aux femmes et tout un système de violences qui perdurent largement et suivent un schéma assez constant.
Mais vous n'avez pas peur qu'on favorise la logique de front ?
Que voulez-vous dire ?
Qu'on garde, qu'on perdure, qu'on perpétue le combat et qu'on en fasse parce que c'est des femmes contre des hommes, puisque le mot vient du mot femme et vient homme.
Il y a un truc très important. C'est pas du tout des femmes contre des hommes, c'est des gens pour les femmes.
Il y a un truc très important aussi à rappeler, c'est qu'il s'agit pas d'un combat individuel. Et ça, je pense que c'est à chaque fois très important de le redire. Il faudrait presque le dire en début d'émission. On n'est pas dans une logique de front parce qu'on n'est pas dans une perspective individuelle. On est dans une perspective collective qui se bat contre un système structurel de domination. Par conséquent, les hommes comme les femmes peuvent le prendre en main et le combattre. Et ce système-là, il s'agit de le détruire globalement. On n'attaque pas les hommes. Les hommes individuellement sont rarement consciemment machos ou sont rarement consciemment méchants envers les femmes qu'ils côtoient. On se bat contre ce système et cette structure sociale qui est très ancrée dans nos mentalités, dans nos institutions, etc. et qui est patriarcale. Et c'est ça l'objet du combat féministe.
Et le combat est collectif, vous l'avez dit, Colline de Senarclan. Il reprend de la vigueur. On l'a vu encore dernièrement lors d'une assemblée féministe organisée par l'université ou à l'université de Genève par toute une série d'associations. Il avait la conférence universitaire des associations d'étudiants, le collectif des étudiantes en lutte contre les violences sexistes et le harcèlement sexuel. Il y avait Think Out, association LGBT, etc. Des associations qui se sont regroupées, qui ont rempli un amphithéâtre de questions féministes, de discours sur ces questions féministes, et on va entendre Nadine Frey, elle a 24 ans, elle est étudiante en sciences politiques, elle est la secrétaire de la conférence universitaire des associations d'étudiants et l'une des chevilles ouvrières de cette première assemblée féministe. On l'écoute.
Je vois Nadine Frey sur votre veste, un pins, avec deux princesses. Pourquoi ce choix de la princesse alors qu'ici vous êtes peut-être plus dans le combat d'une assemblée féministe?
Alors, je pense que c'est important de dire que le féministe, c'est pas le contre-féminin. On a un peu peut-être cette idée reçue que les féministes, c'est les méchantes barbares qui veulent pas mettre de rose, qui écoutent pas de la musique populaire, etc. Ben, en fait, non, pas du tout. Le féministe, c'est revendiquer aussi nos choix, nos envies. Et puis, en fait, si on a envie de mettre des paillettes et puis de sortir en robe, eh ben, c'est notre choix et puis on l'assume. Et au contraire, c'est justement valoriser nos envies et puis les dire c'est nos choix, on le fait comme ça et on a envie de le faire. Et du coup, c'est vraiment la princesse aussi. Ben oui, moi je suis une princesse, voilà, je l'assume. Et je suis une princesse et en même temps, je suis plein d'autres choses. Et c'est ça la richesse du féminisme, c'est qu'en fait, on est qui on veut, quand on veut et de la manière dont on le veut.
C'est une forme de liberté.
Oui.
On est à l'Assemblée féministe ce 2 novembre à Genève, à l'ONU. Et une jeune femme va dénoncer Spotted, une page Facebook anonyme censée permettre des rencontres, mais qui en fait devient clairement du harcèlement.
Donc là, il y a une page Spotted, une IGA sur Facebook, dont voici quelques messages. Donc là, typiquement, on peut lire sur celui de gauche la phrase « Car en cours de fiscage, je fantasme sur ton côté chienne ». Il y a vraiment des propos dégradants. Il y a également des messages un peu menaçants. Juste en bas de celui-ci, on peut lire « Troisième de bachelor, faculté de droit ». C'est précis quand même. « Prends garde, je suis parfois assis à côté de toi ». Ça donne très envie de retourner au même cours, justement. Dans le message de droite, il y a « Belle gazelle »,« Belle jument »,« Que girafe, tigresse, lionne ». Enfin, c'est super. Voilà. Dans les autres, là, celui de gauche, Un petit indice pour toi, j'étais à la table juste derrière toi. Pareil, propos menaçants pour la personne qui se reconnaît. Et puis dans celui en bas à droite, tu es en première année de droit, prépare-toi à être ma proie. Tout le champ lexical de la cible. Donc ce genre de page ouvre donc la porte à un type de harcèlement sexiste particulier, le cyberharcèlement. Les personnes ciblées par les messages peuvent se retrouver humiliées et se sentir menacées, alors qu'un lieu tel que l'université doit normalement garantir le confort et la sécurité. L'idée est donc de permettre à toute personne désirant témoigner d'actes de sexisme de pouvoir le faire en envoyant un message privé à la page pour qu'ensuite on le publie anonymement. Donc allez voir notre page Stop Sexisme IGE, likez-la, elle est toute fraîche, allez-y. Voilà, merci beaucoup.
Voilà, plus de 400 personnes ce soir-là pour cette première assemblée féministe. Alors, à l'une et à l'autre, parce qu'on arrive un peu au terme de ces échos de vacarme ce matin, Colline de Senarclan, Clarence Edgar-Rosa, j'ai envie de vous poser la question qui a été notre fil conducteur toute cette semaine de reportage de Francine Delcozo. La nouvelle génération saura-t-elle réenchanter le féminisme? Vous êtes toutes les deux... l'une une petite trentaine, l'autre à peine dépassé la trentaine. Vous êtes dans cette nouvelle génération, cette génération qui se lance dans ces questions-là, qui n'a pas peur d'utiliser ces gros mots, qui utilise les réseaux sociaux pour se faire entendre, les blogs pour se faire entendre également. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle génération qui est la vôtre saura réenchanter le féminisme, Colline de Senarclan?
Oui. Je pense qu'on est en train de parvenir grâce justement à ces nouveaux outils qui sont les nôtres et qui nous permettent d'aller là où nos prédécesseuses ne pouvaient pas aller. On est en train de donner une image du féminisme qui est probablement différente. Maintenant, la part pessimiste en moi me fait penser qu'il y aura toujours des résistances et que ces résistances-là, il faudra continuer à les combattre, qu'il faudra continuer à être vigilant et vigilante et voilà. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on se perde non plus dans une espèce de volonté de popularité et pour ça s'adoucir trop, parce que nos revendications, elles sont précises, elles sont effectivement radicales et importantes, et je pense qu'on ne doit pas abandonner le corps de tout ça pour être populaire.
Clarence Edgar-Rosa.
Oui, moi, je suis pas sûre que le féminisme ait besoin d'être réenchanté. Enfin, je suis un petit peu surprise par le terme.
Vous le trouvez suffisamment enchanté, suffisamment vivant, joyeux et porteur d'espoir?
Oui, oui, tout à fait. Enfin, je pense que, en fait, le féminisme, au-delà d'avoir besoin d'être réenchanté ou pas, il a surtout besoin d'être vraiment compris. Et voilà. Et moi, c'est ça qui m'importe vraiment. Et je trouve que notre génération est très créative sur les manières de d'arriver à cet objectif-là. Très créative aussi dans les nouvelles méthodes qu'elle emploie pour faire entendre ses idées. Donc en ça, je trouve que c'est très porteur d'espoir. Et puis voilà, l'objectif, c'est bien sûr que le féminisme soit d'abord compris, et puis que tous ces mots-là soient appropriés par toutes et tous, et que chacun les utilise et en fasse des outils d'émancipation et des outils d'action.
Et si vous manque des mots, eh bien on peut toujours se référer à votre livre, Clarence Edgar-Rosa, Les gros mots, l'abécédaire joyeusement moderne du féminisme, paru aux éditions Hugo Doc. Et puis Colline de Senarclan, je rappelle que vous êtes féministe et essayiste et que vous avez publié pour votre part Salope, réflexion sur la stigmatisation aux éditions Alice Hélas, c'était en 2014. Merci à l'une et à l'autre d'être venues ce matin dans les échos de vacarme. Et puis on se quitte avec un homme, si vous êtes d'accord, c'est Bruce Springsteen, Born to Run sur la première. Très belle journée à vous. Machines sprung from cages on Highway 9. Les échos de vacarme, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et merci à ceux qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Il y avait Francine Delcozo, Julie Janet, Rodolphe Beauchaud, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux, Stéphanie Jovanovic, Dani Sulam, Jean-Philippe Tzvalen, Anne-Marie Durcher, Alexandre Lemierre et Fatmir Blakaï. On se retrouve demain dès 13h pour une nouvelle semaine de reportage intitulée « Que faire de nos déchets nucléaires ?» une série proposée par Christophe Canu. Les informations, ne manquez pas Travelling, l'émission cinéma de Catherine Fadbert, à l'affiche Spartacus de Stanley Kubrick. C'est un film sorti en 1960. Et puis Les Beaux Parleurs, à 11h, recevront le professeur Philippe Morel, chirurgien spécialiste de transplantation. Très belle journée, il est 10h sur la première.